Les podcasts du Collège de France, biologie.
On va commencer. Bonjour. Bienvenue à ce cours sur les circuits et les signaux quantiques. Je voudrais commencer par vous remercier d'y participer et vous inciter surtout à poser des questions à tout moment s'il y a quelque chose qui ne vous paraît pas clair. N'hésitez pas à m'interrompre. Je pense que le cours bénéficie énormément des différentes questions. En fait, il n'existe pas, le cours, si vous n'intervenez pas. Donc, voilà. Donc, cette année, nous allons poursuivre un sujet que j'avais commencé à traiter l'année dernière, donc ces circuits et ces signaux quantiques. Avant de commencer, je vais vous signaler un certain nombre de détails. D'abord, les transparents de ces leçons sont sur Internet. Vous pouvez consulter en fait les leçons précédentes en allant sur le site de la chaire. Vous commencez par aller sur le site du Collège de France et puis vous suivez cet arbre. Si vous vous laissez impressionner par le côté formel de ce lieu, et si vous n'osez pas poser des questions pendant les leçons, ou si vous remarquez des erreurs, si vous avez des remarques, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Voilà l'adresse. Et je voudrais remercier un certain nombre d'entre vous qui, justement, l'année dernière, m'ont envoyé un certain nombre de remarques que l'on essaye d'incorporer au fur et à mesure, pas immédiatement, mais enfin, dans la mesure du possible, on corrige, on met à jour les différentes leçons. Ces leçons sont donc tous les mardis à 9h30. En fait, il y a un mardi où la leçon n'aura pas lieu, ce sera le 26 mai. Les leçons sont suivies à 11h par un séminaire. Et tout à l'heure, nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Estève qui nous parlera de la lecture fidèle d'un bit quantique. Alors, cette année, je vais essayer de me concentrer sur un sujet que j'avais commencé à aborder l'année dernière, qui est le sujet des circuits quantiques non linéaire, bien sûr, mais surtout hors équilibre. Donc c'est la combinaison du caractère non linéaire et du caractère hors équilibre de ces circuits qui font leur intérêt. Donc nous allons voir comment cette combinaison permet, en fait, est essentielle pour le traitement de l'information quantique. Et aujourd'hui, je voudrais introduire cette idée d'audit des circuits, des machines quantiques, et donc indiquer comment ces circuits permettent de comprendre comment est traitée l'information dans les moindres détails, c'est-à-dire d'être capable de faire la comptabilité de l'énergie et de l'entropie qui est nécessaire à un calcul ou à un traitement de l'information. Et bon, j'ai indiqué ici les sujets que l'on abordera pendant le cours. Je répète encore une fois, donc ces leçons sont quand même fluides. Vous pouvez intervenir et changer le programme. Donc cette liste est donnée à titre indicatif. Si on passe beaucoup de temps sur une question, eh bien peut-être on sacrifiera un de ces sujets. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Je poursuivrai ce sujet l'année prochaine en parlant plus précisément de calcul quantique dans les circuits à l'état solide. Cette année, je me concentrerai plutôt sur le traitement, disons, on va dire, analogique de l'information, en reportant le traitement vraiment digital, spécialement digital, à l'année prochaine. Il y a un certain nombre de progrès très notables qui se sont faits ces derniers temps dans le domaine du calcul, et je pense que l'année prochaine, la situation sera mûre pour en parler en détail. Donc aujourd'hui, on va introduire cette notion d'audit des machines à traiter l'information. Et ça me permettra aussi de faire une petite revue des sujets qu'on a abordés l'année dernière. Et puis de vous parler de la caractérisation de la non-linéarité des circuits et de leur caractère au rééquilibre. Peut-être si on a le temps, on pourra aborder, décrire un peu les sujets qui vont être traités dans les leçons suivantes, mais si on ne peut pas le faire, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et je terminerai finalement pour parler, en rappelant les questions qui vont être traitées pendant ce cours. Donc voilà. Alors, je voudrais d'abord introduire cette idée de circuits électriques quantiques. Les circuits électriques ordinaires sont omniprésents. Donc, je vous rappelle que l'intérêt des circuits, c'est leur architecture modulaire. Ils sont fabriqués à partir d'un petit nombre d'éléments élémentaires, un peu à la façon d'un jeu de Lego. Et malgré la simplicité de chaque élément élémentaire, en fait, les combinaisons peuvent donner des réseaux très compliqués qui ont des fonctions très sophistiquées. L'intérêt des circuits aussi, c'est qu'on peut les fabriquer par des méthodes parallèles et donc arriver à un nombre incroyable d'éléments, puisqu'on en est maintenant, comme vous le savez, à 1 milliard de transistors par puce. En fait, il est impossible de donner une idée de la complexité de ces puces qui ont, c'est une photo finalement basse résolution d'un Pentium d'Intel. La complexité de ces circuits est équivalente à l'île de Manhattan avec une résolution qui serait celle des tiroirs d'une commode. Il est impossible de représenter cette complexité dans une photo. Cette fabrication en parallèle permet cette miniaturisation, mais aussi une uniformité des éléments. C'est-à-dire que finalement, ce modèle d'éléments tous identiques formant un réseau est très bien implémenté dans les réalisations des circuits intégrés. Alors, les ingénieurs qui construisent ces circuits, en fait, n'ont pas besoin de connaître la mécanique quantique parce que, au niveau des signaux qui portent l'information, donc les tensions et les courants macroscopiques, tout est traité par des équations classiques du mouvement. La mécanique quantique n'intervient qu'au niveau, un niveau bien inférieur, un niveau sous-jacent, celui des caractéristiques courant-tension des éléments. Et finalement, une fois que ces caractéristiques sont données, vous n'avez pas besoin du tout de comprendre la mécanique quantique pour traiter ces circuits. Dans ces leçons, au contraire, on va traiter de circuits dans lesquels la mécanique quantique joue un rôle fondamental au niveau supérieur, au niveau des signaux qui portent l'information. Alors, une idée des ordres de grandeur quand même. Donc, les circuits dont je vais parler sont des circuits micro-ondes. Moi, actuellement, ce qu'on appelait autrefois les radiofréquences sont devenues coïncident avec les micro-ondes. Et ces fréquences se situent un peu au milieu du spectre des excitations électromagnétiques, un peu à mi-chemin entre l'électricité de l'EDF et puis les rayons gamma. Donc dans ce régime intermédiaire de fréquences qui sont celles du téléphone portable, il y a une situation assez extraordinaire assez récente d'ailleurs, c'est qu'on dispose d'un contrôle des signaux en amplitude et en phase qui sont équivalents en précision à celui des signaux continus. Donc, on sait, par exemple, spécifier l'amplitude d'un signal micro-onde avec la même précision, grosso modo, qu'un signal continu. Et en même temps, on peut être dans un régime où on a affaire à des particules individuelles. On peut parler de photons. Donc cette combinaison du contrôle, disons, en quelque sorte, de la fonction d'onde du photon et du caractère particulier du rayonnement électromagnétique est unique à ce domaine qui est vraiment qui emprunte à la fois à l'électricité et à l'optique. Et donc toute l'idée de ces circuits quantiques, c'est d'arriver à pouvoir encoder l'information, disons encoder les bits, avec des signaux micro-ondes qui porteraient 0 ou 1 photon. Donc vraiment un codage minimal qui est finalement limité par les lois fondamentales quantiques. Alors les ordres de grandeur sont là importants puisque donc on parle de fréquences de quelques gigahertz et je vous rappelle que 10 gigahertz est équivalent à une température de 0,5 Kelvin. On dispose maintenant de réfrigérateurs à dilution qui permettent d'aller bien en dessous de cette température. Donc on peut arriver dans le laboratoire à refroidir ces circuits à 20 millikelvin environ. Et donc on est par rapport à ces radiofréquences, ces micro-ondes, exactement dans la même situation que l'optique quantique à température ambiante. Donc on peut travailler finalement, on peut être dans un régime où la température est essentiellement, peut être prise comme zéro par rapport à l'énergie des quantas élémentaires. Voilà. Alors, maintenant, la question pourquoi finalement s'intéresser à ces circuits, en fait, à l'origine, il y a une réflexion qui est la question d'efficacité des machines du traitement de l'information. Alors vous savez, bien sûr, c'est un lieu commun de dire que les ordinateurs sont maintenant très rapides, très compacts et utilisent peu de puissance, quoique vous voyez que finalement, en termes de puissance, les nombres sont moins impressionnants. En fait, est-ce qu'on peut arriver à... La question, c'est finalement, est-ce que malgré tout ce progrès dans la miniaturisation la réduction d'énergie par opération, est-ce qu'un ordinateur, est-ce que les machines à traiter l'information sont efficaces? Et de façon assez amusante, ceci a fait l'objet récemment d'un débat sur Internet, puisque le Times, un journal donc anglais, a finalement révélé, soi-disant, qu'une recherche Google consommait quand même beaucoup d'énergie, puisque deux recherches Google étaient équivalentes à chauffer finalement à une tasse de thé. Alors, ça fait couler pas mal de bits sur Internet, et puis... finalement, Google a donné une réponse officielle sur son blog disant non, pas du tout, ce calcul est complètement faux, c'est pas deux recherches Google qui est équivalent au chauffage d'une tasse de thé, c'est 10 recherches Google. Effectivement, il donne là le résultat de leur évaluation, donc une recherche Google, c'est 1 kilojoule. Il faut à peu près 10 kilojoules pour chauffer une tasse de thé. Alors, 1 kilojoule, quand même, ça semble beaucoup. Et donc, la question un peu de l'efficacité du calcul est un peu posée comme ça, de manière amusante, par ce débat. Alors, ces questions d'efficacité, vous savez, en ce qui concerne les machines thermiques, les machines à vapeur, ça a été à l'origine de la thermodynamique, puisque... disons, Carnot avait compris en quelque sorte qu'une machine thermique prenait de l'énergie d'une source chaude et puis avait besoin de se débarrasser de son entropie en la déversant dans une source froide. Et à partir de ces considérations, on pouvait, comme ça, calculer le rendement ultime d'une machine à vapeur. En pratique, naturellement, ce rendement tout à fait théorique n'est jamais atteint, mais ce cadre de cette recherche en fait fournit un cadre de réflexion très précieux pour discuter les machines thermiques. Et puis finalement, comparé aux ordres de grandeur que l'on évoquait pour le coût d'un calcul, Finalement, on est arrivé à des chiffres finalement très raisonnables. L'ordre de grandeur y est, le rendement thermique d'un moteur à explosion, c'est quand même 0,3. On ne sait pas l'unité, mais enfin, on n'en est quand même pas très loin. Alors, maintenant, on peut se poser la question identique pour les machines à traitement de l'information. Et Charlie Burnett, qui est, disons, un des chercheurs vraiment des pionniers dans ce domaine, a écrit cette phrase que je trouve très intéressante, c'est qu'il dit qu'un ordinateur, finalement, convertit de l'énergie libre en travail mathématique. Et évidemment, il y a un produit, un déchet qui est de la chaleur. Et donc, il y a un parallèle qui est établi avec les machines qui convertissent la chaleur en travail. Et ça, cette phrase pose vraiment le problème de l'énergie qui est utile pour une opération de calcul élémentaire. Je voudrais tout de suite préciser que ces considérations énergétiques sont insuffisantes. Il faut aussi se poser des tas d'autres questions, en particulier des questions sur la vitesse, parce que, ne consommer presque pas d'énergie, mais, calculer dans un temps qui serait très long n'est pas non plus intéressant. Donc, en fait, les questions, c'est finalement, est-ce qu'il y a des principes qui gouvernent les performances ultimes, mais avec contraintes, c'est-à-dire on veut aussi s'intéresser à des questions comme la vitesse, la fiabilité, etc. Donc, on veut savoir comment s'établissent les compromis entre les différents paramètres qui décrivent le calcul. La réponse à la question de Bennett est assez intéressante et on connaît la limite inférieure au coût du calcul. Elle est théorique, très théorique, mais amusante, puisque en fait, lorsque on effectue un calcul, en principe, la machine peut fonctionner de manière réversible. Donc, les différentes étapes du calcul, en principe, pourraient s'effectuer sans consommer d'énergie. L'énergie que l'on consomme, assez curieusement, c'est lorsqu'il faut effacer le registre de sortie de la machine, le registre qui présente les résultats. Donc, par exemple, le résultat des calculs va être ce nombre écrit en binaire ici. On va vouloir utiliser la machine une seconde fois pour faire un nouveau calcul. Il va falloir sortir le résultat et donc il va falloir effacer les bits qui avaient déjà été écrits. Et c'est là où le coût se manifeste, c'est-à-dire que c'est le coût d'effacement du registre qui finalement correspond à la dépense d'énergie minimum du calcul. On aboutit ainsi à un nombre extraordinairement petit, puisque en fait, c'est KBT, le B ici devrait être là. Le coût par bit, c'est donné par l'énergie des fluctuations thermiques. Et donc, par bit, on a finalement 10-20 joules à température ambiante. Donc, vous voyez, par rapport au kilojoule de la recherche Google, on a des tas d'ordres de grandeur de différence, même si on admet que Google vous donne, un gigabit d'information, on est quand même très loin du compte par rapport, au minimum requis par les lois de la physique. Alors, cette question du coût du calcul intervient, en fait, il y a une relation entre les questions du coût du calcul et la thermodynamique. Vous savez que Maxwell a introduit ce fameux démon qui, en principe, pourrait arriver à violer la seconde loi de la thermodynamique. Donc, je vous rappelle que ce démon observe les molécules de gaz lorsqu'une molécule lente arrive, il la laisse passer, et lorsqu'une molécule rapide cherche à passer par cette porte, il ferme la porte, et donc il peut comme ça, par cette suite, disons, d'observations et de fermetures de porte, arriver finalement à séparer les molécules froides des molécules chaudes, à réaliser un gradient spontané de température et donc violer le second principe. Et ce paradoxe apparent est resté pas entièrement compris jusque dans les années 60, où justement ce principe du coût de l'effacement de l'information a permis de clarifier la situation. En fait, on sait maintenant qu'en principe, ce démon peut opérer dans toutes ses étapes absolument sans consommer d'énergie ou d'entropie. Il peut observer les molécules, il peut calculer leur trajectoire et il peut décider de fermer ou non la porte. Tout ça a un coût nul. Le seul problème, c'est que ces calculs demandent de la mémoire. Il a une certaine réserve de mémoire, mais tôt ou tard, cette réserve de mémoire va être utilisée. Et donc, lorsqu'il arrivera à la fin de sa mémoire, eh bien, il faudra qu'il efface pour pouvoir continuer son opération. Et c'est au moment où il va effacer cette mémoire que le second principe de la thermodynamique va demander son dû. Et donc, finalement, ce KT par bit va exactement correspondre à l'énergie qu'il aura comme ça accumulée. Donc, cette apparition spontanée d'énergie ne se fera pas en régime permanent. Ce qui est quand même curieux, c'est qu'on voit que s'il dispose de cette réserve de mémoire au départ, eh bien, pendant un certain temps, le viol du second principe pourra tout à fait s'effectuer. Mais en fait, vous voyez que pour un gaz macroscopique avec un nombre de molécules égal au nombre d'Avogadro, on ne dispose pas finalement encore assez de mémoire pour violer le principe de la thermodynamique pendant très longtemps. Alors, ce principe de l'effacement de la mémoire, je trouve assez intéressant. Et puis, je voudrais vous rappeler qu'actuellement, dans de nombreux laboratoires, on n'efface jamais la mémoire. On se contente juste d'en acheter de la nouvelle. Et un jour, ceci nous rattrapera. Un jour, il faudra effacer nos données parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça à acheter de l'information. Mais on vit pour l'instant, disons, dans le monde scientifique, dans cette étape un peu transitoire. Alors, il n'y a pas que le coût d'information, d'effacement de l'information qui compte. Il y a aussi la capacité à transmettre de l'information rapidement. Et il y a aussi une limite qui est connue dans les communications des signaux, donc qui sont essentielles. Par exemple, on parlait de recherche Google. Google, finalement, rassemble de l'information sur différents serveurs et vous l'envoie. Donc, il faut communiquer, il faut que les ordinateurs communiquent entre eux. Et il y a une certaine limite ultime indiquée par les lois de la physique au coût de la communication. En fait, si vous disposez d'une puissance P, mettons on va dire 100 microwatts, qui correspond à la puissance de votre téléphone portable, grosso modo, quel débit d'information limite vous pouvez avoir avec cette puissance P? En fait, la réponse est donnée par cette très jolie formule. Donc la capacité d'un canal unidimensionnel pour transporter l'information est proportionnelle à la racine de la puissance divisée par h bar. Vous voyez que ça fait bien évidemment une fréquence, c'est-à-dire un nombre de bits par seconde. Et c'est microwatts, ça devrait être ça n'a pas été converti. Mais 100 microwatts, ça correspond à peu près à 10 puissance 15 bits par seconde. Là aussi, on arrive à des nombres gigantesques, on est bien, bien loin du compte. Donc vous voyez, il y a vraiment de la place pour améliorer les choses. Voilà donc un peu la motivation pour s'intéresser à ces circuits quantiques dans lesquels on pourrait en fait analyser dans le détail la façon dont dont est traitée l'information. Je vous rappelle que des machines à traiter l'information qui fonctionnent au niveau quantique sont maintenant, ont plusieurs implémentations. Et j'ai classé les implémentations un peu par leur caractère plus ou moins macroscopique. Donc on peut, manipuler l'information quantique en se servant de photons qui voyagent par exemple dans des fibres optiques. On peut utiliser les spins nucléaires, les atomes, les molécules, les quantum dots dans les semi-conducteurs sont aussi une possibilité. Dans ces leçons, je me concentre sur les circuits supraconducteurs, tunnels, qui ont la particularité d'être au bas de cette échelle qui va du plus microscopique au plus macroscopique, c'est-à-dire que nos circuits sont ceux qui, ont le plus d'atomes, c'est ceux dans lesquels les degrés de liberté qui portent l'information sont répartis sur le plus grand nombre d'atomes. Ils sont, de ce point de vue-là, c'est assez commode. On peut presque les voir au microscope optique. Vous voyez, les dimensions sont, les dimensions typiques sont l'ordre du micron. Évidemment, le danger de ces implémentations, c'est que le couplage avec des degrés de liberté parasites peut être très important, et donc il faut développer toutes sortes d'astuces pour justement éviter cette situation, éviter que ces degrés de parasites détruisent la cohérence quantique. Voilà, donc j'ai donc présenté un peu j'ai fait une présentation très générale et très rapide de ce domaine de recherche. Je voudrais maintenant aborder ces questions de la non-linéarité et du caractère hors équilibre des circuits, et je vais faire un bref rappel de ce que j'avais introduit l'année dernière sur la façon dont on décrit ces circuits. Alors, je vous rappelle qu'un circuit radiofréquence, c'est un réseau qui contient des éléments. Ces éléments sont disposés sur des branches du circuit qui joignent les nœuds. Ce qui est important de comprendre, c'est que chaque branche est caractérisée par un couple de variables, donc la tension dans la branche et le courant dans la branche. Alors, contrairement au cas continu, la tension dans la branche est quelque chose qui est assez particulier. On ne peut pas simplement prendre la différence entre les potentiels des nœuds. Cette notion qui existe pour le cas continu ne peut pas s'appliquer pour le cas radiofréquence. La tension, en fait, quand on parle de tension, on parle de l'intégrale du champ électrique à l'intérieur de l'élément. Et ça, c'est parce qu'en radiofréquence, cette intégrale du champ électrique qui dépend donc le champ électrique va dépendre en tout point du temps, cette intégrale dépend du chemin. Il faut spécifier quand même des règles strictes pour définir cette intégrale. Pour le courant, je pense qu'il y a beaucoup moins de difficultés, mais en fait, c'est un petit peu la même chose. Le courant, finalement, va être aussi, là ici je l'ai écrit comme une intégrale sur la densité de courant à travers l'élément, mais on peut voir aussi cette intégrale comme finalement la circulation du champ magnétique autour de l'élément. Donc finalement, ces grandeurs tension et courant sont des espèces de résumés, des espèces de caricatures du champ électromagnétique qui se trouve dans les éléments. Alors, l'intérêt de ces circuits, c'est que chaque élément est pris dans un répertoire d'éléments standards, de base, et la dynamique du circuit, finalement, va dépendre du fait que chaque élément a une relation bien particulière entre courant et tension. Donc il y a deux exemples importants. L'exemple de l'inductance, donc, pour laquelle la tension est proportionnelle à la dérivée du courant par rapport au temps, avec ce coefficient qui est l'inductance. Et puis la capacitance, qui est un peu le dual de l'inductance, puisque c'est le courant qui est proportionnel à la dérivée de la tension par rapport au temps. Je pense que vous connaissez tous ces relations. Alors ici, on pourrait habituellement, on fait figurer la résistance aussi parmi ces éléments de base. En fait, les résistances sont à proscrire dans ces circuits. Elles sont extrêmement indésirables puisqu'elles ont tendance à introduire la dissipation et donc réduire la cohérence quantique. Donc on cherche à les éviter. Et de plus, quelque chose qui apparaîtra par la suite, on ne pourrait pas, au niveau de description, dire que la relation constitutive de la résistance, c'est V égale RI. Ceci est tout à fait faux quand on veut parler des fluctuations thermiques et évidemment quantiques. Disons qu'on est dans un régime où on est dominé par les fluctuations quantiques, qui est le régime où on travaille quand on parle de photons individuels, cette relation est grossièrement fausse. Et donc, c'est quelque chose qu'on va voir par la suite. Alors, le répertoire des éléments que j'ai présenté est incomplet, puisque si on n'a que des éléments linéaires, on ne pourra réaliser aucune opération intéressante. Il nous faut au moins un seul élément non linéaire. Et jusqu'à présent, le seul élément non linéaire que l'on connaisse qui puisse travailler en radiofréquence à basse température et qui ne soit absolument pas dissipatif, et la jonction Josephson, donc un sandwich entre deux supraconducteurs séparés par une mince barrière tunnel. Et cette jonction Josephson elle-même peut être vue comme la combinaison de deux éléments de base, une capacité qui correspond à, disons, la capacité plane des électrodes en regard, et un élément tunnel qui, en fait, est une inductance non linéaire et qui se représente avec ce symbole en forme de croix. Il nous faut maintenant donner la relation constitutive de la jonction, et pour cela, il faut introduire une variable nouvelle, qu'on appelle le flux de branche, qui est l'intégrale de la tension aux bornes de la jonction. Alors, ce flux de branche est un peu mystérieux puisque la jonction n'a pas de boucle. On ne voit pas très bien où le champ magnétique intervient ici. Donc c'est un flux généralisé, un flux. Le flux peut être aussi compris d'une manière générale comme l'intégrale de cette tension, donc une double intégrale du champ électrique intégrée par rapport à l'espace et par rapport au temps. Et donc, en employant cette variable de flux, on peut donc définir la relation courant-flux de la jonction. Donc voilà le flux généralisé porté en abscisse. Une inductance correspondrait à une relation linéaire. Donc le courant pour une inductance est proportionnel au flux. Et ceci définit l'inductance Josephson, qui est la pente à l'origine de cette courbe, qui est une sinusoïde. Et donc, la relation courant-flux de la jonction est une relation, on peut dire, maximalement non linéaire, puisque donc, on part d'une droite au départ, et puis finalement on oscille, et en moyenne, finalement, on a un courant qui est nul. Il y a deux grandeurs caractéristiques dans cette relation entre le courant et le flux. Il y a la périodicité en flux qui est fixée par le quantum de flux. Et puis un autre paramètre qui s'appelle le courant critique de la jonction Josephson qui correspond à ce maximum ici. Mais ce courant critique correspond aussi à cette inductance, puisque en fait les deux sont reliés par le quantum de flux. On peut aussi paramétrer la jonction par une troisième grandeur qui est l'énergie Josephson, et qui s'obtient en fait en considérant l'énergie stockée dans l'élément tunnel. Lorsqu'on fait varier la tension aux bandes de la jonction, et donc le flux varie, l'énergie stockée est une fonction du flux. Au début, du fait de la relation linéaire entre le courant et le flux, on a une relation parabolique pour l'énergie, mais cette parabole s'évase et puis, devient un cosinus pour les flux importants. Et ce paramètre, l'énergie Josephson, traduit également, est équivalente au courant critique et à l'inductance Josephson. Et deux fois l'énergie Josephson, c'est la hauteur de ce potentiel, de cette barrière énergétique. Voilà. Je vois que vous ne posez pas de questions, donc je voudrais encore une fois vous inciter vraiment à interrompre ce cours à tout moment si quelque chose n'était pas parfaitement clair. Oui ?
Dans les livres, on voit quand même, en dépit de ce que tu dis tout à l'heure sur les résistances, il y a souvent une petite résistance en parallèle. Est-ce que tu vas...
Ah oui, alors C'est très bien de me poser cette question parce que ce sujet est vraiment assez complexe et je dois dire qu'il y a pas mal de désinformation dans la littérature à ce propos. Donc, effectivement, on voit des fois une résistance représentée en parallèle dans ce modèle. Cette résistance, en fait, n'existe pas, en principe, à basse température. Il n'y a pas une bonne jonction tunnel bien fabriquée à une température bien inférieure à celle de la température critique des supraconducteurs et parfaitement non dissipative. Bon, il y a un certain nombre de difficultés expérimentales, pratiques, on pense, qui fait qu'il peut y avoir une dissipation résiduelle quand on ne prend pas un certain nombre de précautions. Mais c'est d'ailleurs... je discuterai ce sujet un peu plus loin dans ces leçons, mais on peut considérer qu'avec une très bonne approximation, cet élément est entièrement non dissipatif. Et donc, les résistances, si elles sont... rapporté ici, traduit soit une volonté délibérée de créer de l'amortissement, ce qui peut être le cas dans certains dispositifs, soit une façon phénoménologique de traiter quelque chose qui est incompris dans le système. Ce transparent répond un peu à ta question. Donc, si on imagine un sandwich parfait, et puis si on ne connecte pas, les supraconducteurs à l'extérieur, et donc s'il n'y a pas de perturbation extérieure, en principe, la théorie BCS de la supraconductivité nous indique qu'on doit avoir les états suivants. On imagine deux supraconducteurs dans leur état fondamental, séparés par une barrière isolante. Il va y avoir un paramètre macroscopique quand même qui va rester, qui est le nombre d'électrons qui sont passés par effet tunnel à travers la jonction. On va supposer que l'ensemble de ces deux supraconducteurs est neutre, est électriquement neutre. Donc la charge ici, c'est uniquement la charge qui est passée à travers la jonction. Et en principe, donc, la théorie BCS nous dit que voilà tous les états qu'on aura. Donc on a différents états fondamentaux qui correspondent à un nombre d'électrons transférés qui est pair. Et chacun de ces états est parfaitement non dégénéré. Donc il n'y a pas de degré de liberté résiduelle du système dans chacun de ces états. Bien sûr, si on fournit une énergie qui est égale à 2 deltas, donc le gap des excitations dans un supraconducteur, on pourra casser une paire. Les deux membres de la paire ont des impulsions qui peuvent être très dégénérées. Donc, en fait, ici, on a plutôt un continuum d'états au-dessus de chacun de ces états excités. Mais en principe, donc, à suffisamment basse température, quand on est à des températures très inférieures au gap supraconducteur, et dans le cas de notre circuit, cette situation est très bien réalisée, puisque je parlais de 20 millikelvin, on utilise couramment l'aluminium qui a qui a une température, disons, légèrement supérieure à 1 Kelvin. Donc, vu que le nombre de quasi-particules décroît exponentiellement avec la température, en principe, l'hypothèse qu'on est dans ces états de base ici doit être extrêmement bien obéie. Mais on discutera de cette question un peu plus loin dans le cours. Donc, si on se limite à ces états, eh bien, le degré de liberté dans le système, c'est le fait qu'on peut passer par effet tunnel, une paire peut passer par effet tunnel à travers la jonction. Et donc, en principe, la fonction d'onde du système, c'est une combinaison linéaire de tous ces états dits de charge. Oui. Oui.
Soit, effectivement, on a quelque chose qui est périodique, mais phi et phi plus phi 0 sont différents. Alors, on sent bien que cette identification est liée à la quantification de la charge. Donc, ma question, c'est dans quel cas on doit considérer cette variable comme définie sur tout R ou seulement.
Oui, je te remercie, Benoît, de me poser ces questions, parce que en fait c'est bien, parce qu'en plus j'ai préparé les transparents pour y répondre, donc on s'est pas concerté avant, c'est effectivement absolument la question que tu soulèves là est absolument cruciale. D'ailleurs le but de, je crois que l'intérêt de ce genre de cours, c'est d'arriver à discuter ce genre de questions de base. J'indique bien que finalement il reste pour ce système un degré de liberté qui est discret. Le nombre de paires de Cooper qui est passé par effet tunnel à travers la barrière. Et donc, si on peut considérer ce nombre comme discret, la variable conjuguée, qui est la phase, ce flux phi, qui est l'intégrale de la tension, doit être, d'après les principes de la mécanique, doit être une fonction qui vit, une variable qui vit sur un cercle, et non pas de moins l'infini à plus l'infini. C'est une symétrie. Si on a vraiment cette quantification de la charge parfaitement discrète, eh bien, cette variable de flux est contrainte à vivre sur un cercle. Et on verra plus loin dans les leçons, justement, comment on peut passer continuellement de cette situation où la charge est parfaitement discrète à une situation où elle devient continue, et où le flux, lui, va devenir, non pas être une variable sur un cercle, mais sur une ligne. En fait, c'est assez intéressant parce que la mécanique quantique permet de résoudre cette difficulté. On peut passer, en fait, de manière un peu graduelle de ces situations qui ont l'air topologiquement complètement antagonistes. Peut-être pour les non-spécialistes, il faut que je rappelle que tension et courant ne sont pas en mécanique quantique des variables, très pratiques à manipuler. On préfère donc le flux de branches, comme dont on a parlé, et aussi la variable correspondante pour le courant et la charge de branche, qui est l'intégrale par rapport au temps du courant. Et on peut démontrer, et ça j'avais passé une partie d'une leçon l'année dernière, à expliquer que flux de branches et charge de branches sont des variables conjuguées, quantiques, analogues à la position et à l'impulsion. Donc le flux est une variable de type position et la charge une variable de type impulsion. Voilà. Et bon, ça aussi, ça fait partie d'une de questions qu'on peut débattre, la justification finalement ultime de cette relation. Et je vous renvoie là une des leçons de la semaine de l'année dernière. Donc ce caractère quantique du flux et de la charge. Alors parlons par exemple du flux à travers cette self d'un circuit LC. Et le courant, l'intégrale du courant qui la traverse, cette charge, en fait, on peut la comprendre comme la charge qui se dépose sur la capacité en parallèle avec la self. Et ce système, quand il est traité quantiquement, donne des niveaux d'énergie discrets. Et on peut changer de représentation. Au lieu de parler de flux et de charge, on peut parler d'opérateurs de création et d'annihilation pour les excitations de cet oscillateur. Donc vous voyez, c'est juste un changement de coordonnées. Au lieu d'avoir un commutateur pour le flux et la position égale à IH bar, dans ce nouveau système de coordonnées, le commutateur est égal à 1. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez que le même système qu'on décrivait en parlant de paire de Cooper, hein, qui avait été passé par effet tunnel, on peut le voir aussi ici sous forme de photons. Il y a plusieurs représentations pour ces circuits. On peut parler de charge et de flux. Mais on peut parler aussi en termes de photons. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que le flux et la charge doivent être normalisés pour former ces opérateurs de création de photons qui sont sans dimension, eux. Et les facteurs de normalisation sont intéressants. C'est l'amplitude des fluctuations de point zéro dans l'état fondamental. Donc, dans l'état fondamental de l'oscillateur a des fluctuations à la fois pour le flux et pour la charge, et l'amplitude de ces fluctuations constitue les facteurs de normalisation ici. Je voudrais aussi indiquer, parce que ça c'est une question qui peut surprendre, donc je parle de photons ici pour cet oscillateur. Il s'agit évidemment de photons qui sont piégés, des photons qu'on pourrait imaginer arrivant de l'extérieur et se trouvant piégés dans ce circuit, parce que d'habitude, l'idée du photon correspond plutôt à une particule qui se propage, mais ici, vous voyez, le photon peut être stocké dans cet oscillateur. Donc, quelque chose que je rappelle aussi, c'est que l'oscillateur harmonique a bien des niveaux quantifiés d'énergie, mais il ne peut absolument pas convenir pour effectuer des opérations intéressantes, puisque les transitions entre niveaux sont toutes dégénérées. Lorsque vous irradiez un circuit LC, vous effectuez toutes ces transitions simultanément et vous ne pouvez pas adresser un niveau en particulier. Pour pouvoir adresser un niveau en particulier, il faut que l'énergie, le potentiel, par exemple, soit tout autre chose qu'une parabole, n'importe quelle autre fonction convient. Et à ce moment-là, la dégénérescence de l'égalité des fréquences de transition est levée, et donc on peut, en adressant le système en fréquence par différentes irradiations, le peupler dans un état arbitraire en combinant une série de signaux. Oui.
Je viens de montrer la jonction Josephson. Les niveaux d'énergie que tu indiquais, ils correspondaient finalement à une charge.
Oui.
Et après, tu passes. Donc, les niveaux, ils ne sont pas régulièrement espacés. Et après, tu passes du circuit LC, qui lui a des niveaux réguliers.
Oui. Alors, dans le cas du circuit. Effectivement. Donc, je voudrais préciser là, parce que peut-être ça. Il y a une description de ces circuits en termes de charge et de flux. La description en termes de charge est discrète uniquement dans le cas des jonctions Josephson. Dans le cas des jonctions Josephson, la charge L'opérateur charge va avoir des valeurs propres discrètes, mais ce n'est pas le cas en général et ce n'est pas le cas pour le circuit LC. Par contre, dans la base des photons, la base des photons sera, elle, toujours discrète. Quand on travaillera dans la base des photons du circuit, là, le nombre de photons sera toujours discret. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Dire que il y a deux représentations équivalentes, donc soit charge et flux ou soit un photon, opérateur de création et d'annihilation. Le nombre de photons enfin la base des photons est toujours discrète. Par contre, la base, si on travaille en charge, il faut qu'il y ait une symétrie, comme par exemple cette conservation de la charge des îles, pour que les charges soient elles aussi discrètes. D'ailleurs, il y a peut-être... Ça, c'est une question tout à fait fondamentale. On va passer ça. Ce transparent répond un peu à ce genre de questions que tu te poses. Donc, en fait, il y a deux modes de représentation des excitations du circuit. Donc, on peut travailler en termes de flux ou de charge, ou en termes de nombre de photons. Ça correspond en fait à passer d'une représentation finalement cartésienne en une représentation polaire, hein, puisque donc les opérateurs de création et d'annihilation, en fait, si on y pense classiquement, ça correspond à des amplitudes complexes du signal. Et donc, la partie, on peut, à une fréquence donnée, définir une partie en phase et une partie en quadrature. Et ces parties en phase et en quadrature sont conjuguées au même sens que la position et de l'impulsion. C'est comme le flux et la charge. Donc, finalement, passer du flux et de la charge, d'une représentation en termes flux et charge à une représentation en termes de photons, c'est un peu un passage, disons, des coordonnées cartésiennes en coordonnées polaires. Et ça, c'est tout à fait général. Maintenant, dans le cas de la jonction tunnel, la variable de charge, elle, va être discrète et la variable conjuguée, la variable de flux, va vivre sur un cercle. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où, du fait des symétries de ce système, ce plan ici qui représenterait un petit peu l'espace de phase classique du système, hein, pour un mode du système, se replie et devient un cylindre. C'est ça un peu la question de Benoît finalement. Quand est-ce que le fait que la charge à travers la jonction tunnel devienne discrète, ça correspond à un changement de topologie de l'espace des phases. Donc, dans le cas d'une self continue, d'une self où il y a un fil, disons supra, eh bien, on a la topologie d'un plan. Il n'y a pas de quantification de la charge qui est passée à travers la self. Alors que dans le cas de la jonction Josephson, cette oscillation sinus, la relation périodique courant-flux, et le signe que la charge qui est passée à travers la jonction est une variable discrète, et cette discrétisation change la topologie de l'espace des phases. On voit donc un refermement de l'espace. Alors c'est intéressant de voir comment il semble difficile de passer de manière continue d'une topologie à l'autre. Et pourtant, on verra que c'est en quelque sorte possible. Je vous donne quand même un peu la clé de ce mystère, de ce phénomène. C'est finalement, vous êtes capable de savoir que vous êtes un cylindre, sur un cylindre et non pas sur un plan, si vous êtes capable, si vous vous déplacez suffisamment loin pour faire le tour, pour revenir à votre point de départ et puis de comparer, votre position avec la position initiale. Si vous ne faites que des petits déplacements à la surface du cylindre, ou si vous n'avez jamais la possibilité de vous apercevoir que vous avez fait un tour, eh bien, vous ne savez pas que vous êtes sur un cylindre. Donc, la question de la topologie est liée au fait à la possibilité après un tour, d'être capable de s'apercevoir qu'on est revenu au point de départ. C'est ça qu'on va voir dans les leçons prochaines. Justement, ces questions de la description de la jonction, elles sont tout à fait fondamentales. Donc, si on écrit c'est la clé de la façon dont on doit considérer que la charge est discrète ou pas, et en fait, correspond essentiellement aux relations entre la jonction et son environnement. Et on ne peut pas non plus complètement penser à la jonction Josephson en termes isolés. La jonction Josephson va être couplée à un environnement. Et donc, c'est la question fondamentale, c'est justement quelles sont les propriétés de cette variable, ici, que j'appelle Q extérieur, qui est la charge envoyée par le reste du circuit dans la jonction. D'une manière générale, l'hamiltonien de la jonction s'écrit comme ceci. La charge extérieure, par l'intermédiaire de ce paramètre N extérieur, qui est donc cette charge extérieure en unité de paire de Cooper, déplace la position, déplace l'opérateur qui est équivalent à l'impulsion. Donc il faut résoudre, il faut établir l'hamiltonien de tout le circuit pour justement comprendre ce phénomène, qui donne ou non la discrétisation de cette variable n, qui, vous voyez, à ce niveau-là, est juste simplement cette charge Q qui passe à travers la jonction en unité de paire de Cooper. Alors, en fait, il faut distinguer dans plusieurs types d'environnement pour la jonction Josephson. Il y a un environnement où, finalement, les deux électrodes de la jonction restent isolées de manière électrique à tension, à fréquence nulle. C'est le cas où le circuit extérieur est couplé à la jonction par au moins une capacité. Donc, il n'y a pas de chemin d'essai ici qui referme les deux électrodes. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est le cas de la boîte à paire de Cooper. L'opérateur charge, cet opérateur qui décrit la charge qui passe dans ce circuit, sera un nombre discret et la variable conjuguée phi, ici, le flux réduit, le flux normalisé par le quantum de flux, et doit être compris comme vivant sur un cercle. Par contre, si on connecte les deux bornes de la jonction par une inductance, on forme une boucle supraconductrice dans laquelle il y a un flux, ce caractère, discret de cette variable n est perdu, et ce flux ici est en fait une variable qui vit sur l'axe réel, qui peut prendre des valeurs de moins l'infini à plus l'infini. Devrait y avoir ce terme était mis au carré ici. Et troisième situation, mais en fait que l'on peut voir comme le cas limite de cette situation, c'est le cas où le circuit est refermé par une source de courant et où on a aussi cette variable de flux est une variable qui vit de moins l'infini à plus l'infini. Et on a, au lieu d'un terme quadratique, ici on a un terme linéaire en flux. Et ces différents cas correspondent à différents types de potentiels pour cette variable de flux. Donc dans le cas où finalement il y a un circuit qui se referme sans composante d'essai, donc c'est ce qu'on appelle, la polarisation en charge de la jonction tunnel. Donc la variable de flux sera vie sur un cercle, et donc entre ces points extrêmes, le circuit extérieur va imposer une condition et limite. Donc il faut que la fonction d'onde se referme en accumulant une phase qui est donnée par la charge extérieure. Par contre, quand on a une polarisation en flux, cette variable phi vit sur l'axe réel et il n'y a pas du tout la charge extérieure en fait disparaît. Ce qu'on impose ici, c'est le flux à travers la boucle et on impose finalement une asymétrie dans ce potentiel. Même chose dans le cas de la polarisation en phase, soi-disant en phase, qui est en fait, vous voyez, qui peut être vue comme l'extension de ce régime, parce que si vous prolongez cette parabole, vous pouvez voir que très loin du minimum, en fait, la parabole peut apparaître comme une droite et présenter ces oscillations. Donc, en fait, cette polarisation en phase, ici, est un cas un peu particulier de la polarisation en flux. Et là, dans le cas de la polarisation en phase, c'est le courant extérieur qui fournit l'inclinaison du potentiel. Voilà, nous allons nous arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour ces questions et on poursuivra dans la leçon prochaine avec cette introduction au phénomène hors équilibre non linéaire dans les jonctions, les circuits à base de, disons, de jonctions Josephson, les circuits quantiques. Merci pour votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.